Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce roman de Agnès Martin-Lugan prolonge le parcours de Diane, personnage central de Les gens heureux lisent et boivent du café. Après un séjour en Irlande, elle revient à Paris avec la volonté de reprendre une existence plus stable, sans que le deuil de son mari et de sa fille ait disparu. Le récit se place donc moins dans le moment du choc que dans celui, plus ambigu, de la reconstruction. Diane retrouve son café littéraire, soutenu par son ami Félix, et rencontre Olivier, dont la présence fait surgir des questions qu'elle pensait avoir tranchées. Roman contemporain, centré sur les relations affectives et les conséquences durables de la perte. Ce livre examine la difficulté de choisir un avenir lorsque certains attachements semblent impossibles à remplacer. Agnès Martin-Lugan privilégie une narration émotionnelle, proche de son héroïne, pour explorer les hésitations entre fidélité au passé, désir de protection et acceptation progressive du changement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le retour à Paris comme étape concrète de la reconstruction. Le retour de Diane à Paris structure le roman autour d'une reconstruction qui ne relève pas d'une guérison soudaine. Reprendre le café littéraire constitue un geste très concret, il faut retrouver un rythme, assumer des responsabilités et réoccuper un lieu lié à une identité antérieure au drame. Cette dimension professionnelle évite de réduire le deuil à une simple souffrance intérieure. Le travail devient un cadre qui oblige Diane à se confronter au monde, aux habitudes et aux autres, même lorsque son désir premier est de conserver une distance protectrice. Le café porte aussi une forte valeur symbolique. Il est un espace de livre, de conversation et de passage, donc un lieu où la solitude ne peut jamais être totale. En choisissant de le remettre au centre de son existence, Diane ne renie pas les disparus. Elle tente plutôt de donner une forme vivable à ce qui reste. Le roman montre ainsi que reconstruire ne signifie pas retrouver exactement la personne que l'on était. Il s'agit de composer avec une rupture irréversible, tout en recréant des points d'appui quotidiens. Le retour géographique devient alors un retour problématique vers soi, fait de décisions pratiques, de fragilité et de résistance aux automatismes du passé. Deuxièmement, un deuil qui transforme le rapport à la maternité. La perte de la petite fille de Diane ne sert pas seulement d'arrière-plan tragique, elle détermine directement son rapport à toute possibilité de maternité future. Le refus de redevenir mère exprime une limite profonde, et non une position que le récit traite comme un défaut à corriger. Diane associe la perspective d'un nouvel enfant à une souffrance impossible à mesurer, mais aussi au risque de croire que le présent pourrait réparer ou remplacer ce qui a été perdu. Cette distinction est essentielle. Un nouvel attachement ne peut effacer la singularité d'une enfant disparue, et le roman place son héroïne devant cette contradiction sans proposer de solution simple. Olivier comprend cette réticence, ce qui donne à leur relation une dimension de respect plutôt que de persuasion. Le livre interroge ainsi les attentes parfois imposées aux femmes endeuillées. Reprendre une vie affective ne suppose pas nécessairement de retrouver un projet familial identique. La question devient celle du droit de Diane à définir elle-même ses seuils, ses peurs et ses désirs. Lorsque les certitudes de la protagoniste sont ensuite ébranlées, l'enjeu n'est pas de prouver que le refus était illégitime. Il est de montrer que les convictions forgées pour survivre peuvent évoluer, sans que le passé perde pour autant son poids ni sa valeur. Troisièmement, Olivier est la possibilité d'une relation sans effacement du passé. La rencontre avec Olivier introduit une relation qui se distingue par sa capacité à accueillir les blessures de Diane au lieu de les contourner. Dans beaucoup de récits sentimentaux, une nouvelle histoire d'amour est présentée comme une réponse directe à la perte. Ici, le point de départ est plus réservé. Olivier comprend que Diane ne peut se projeter facilement dans une nouvelle maternité et ne réduit pas son identité à ce blocage. Cette compréhension crée les conditions d'une proximité, mais ne résout pas les conflits intérieurs de Diane. Le roman met donc en tension deux réalités compatibles, mais difficiles à vivre, aimer de nouveau et demeurer fidèle aux disparus. Pour Diane, accepter la présence d'un homme dans sa vie peut sembler exposer la mémoire de sa famille à une forme de trahison imaginaire. La relation avec Olivier force ce raisonnement à être examiné plutôt qu'évité. Elle révèle que le souvenir n'est pas une place fixe que la vie nouvelle viendrait occuper. Il peut demeurer actif tout en laissant une personne évoluer. Le livre se démarque ainsi d'un schéma de consolation romantique trop rapide. Le lien naissant est surtout un révélateur, il rend visibles les peurs, les limites et les contradictions de Diane. Son intérêt narratif tient à cette lente confrontation entre besoin de sécurité et risque inhérent à toute intimité. Quatrièmement, Félix et le café littéraire comme réseau de soutien non thérapeutique. Félix occupe une fonction importante dans le parcours de Diane, car son aide passe par la fidélité, la présence et la coopération concrète. Son rôle ne consiste pas à expliquer son deuil ni à décider à sa place. En l'accompagnant dans la reprise du café, il lui offre un soutien qui respecte sa capacité d'action. cette forme d'amitié est particulièrement significative dans un roman où la souffrance pourrait isoler durablement le personnage principal. Le café littéraire devient le prolongement de ce lien. Ce n'est pas un cabinet de soins ni un refuge entièrement fermé, mais un lieu collectif où les tâches ordinaires et les rencontres créent une relation au monde plus supportable. Les livres et le café suggèrent une sociabilité fondée sur le temps partagé, les habitudes et la circulation des voix. Agnès Martin-Lougan ne transforme pas pour autant ce décor en remède magique. Le lieu ne fait pas disparaître les angoisses de Diane. Il lui donne un espace dans lequel elle ne constitue plus son unique réalité. Cette nuance éclaire le sens de la reconstruction dans le roman. Les grands choix affectifs comptent, mais ils sont rendus possibles par des appuis plus modestes, un ami fiable, un métier. Un endroit familier et la possibilité de participer de nouveau à une communauté. La solidarité se manifeste ici par des actes continus plutôt que par des discours spectaculaires. En dernier lieu, le bouleversement des certitudes comme moteur du second volet. Le roman repose sur un événement inattendu qui vient mettre à l'épreuve les choix pour lesquels Diane a longuement lutté. Cette situation donne au livre sa dynamique principale après avoir reconquis une forme de maîtrise. Diane doit reconnaître que les règles établies pour se protéger ne suffisent plus nécessairement à répondre à ce qui lui arrive. Le conflit ne se situe donc pas seulement entre un passé douloureux et un futur désirable. Il oppose aussi deux exigences intérieures restées cohérentes avec les décisions qui ont permis de tenir ou accepter que vivre implique parfois de revoir ses décisions. Cette tension donne une portée plus nuancée au titre du roman. La facilité annoncée ne correspond pas à une promesse de bonheur sans obstacle. Elle contraste avec la complexité émotionnelle des choix de Diane. Agnès Martin-Lougan met en scène le courage non comme une victoire nette sur le chagrin, mais comme la faculté de tolérer l'incertitude. Diane ne peut ni prévoir toutes les conséquences de ses choix, ni préserver simultanément toutes les formes de sécurité. Le récit examine alors le prix de chaque orientation. Cette approche est caractéristique du roman sentimental contemporain. Les relations ne sont pas seulement des récompenses narratives. Elles deviennent des lieux où se négocient responsabilité, mémoire et désir. La transformation de Diane dépend moins d'une révélation que de son aptitude à envisager un autre chemin. En conclusion, ce roman conviendra surtout aux lecteurs de fiction contemporaine qui cherchent une histoire affective centrée sur les conséquences du deuil plutôt que sur son seul moment. Dramatique. Il est particulièrement pertinent pour celles et ceux qui ont lu, les gens heureux lisent et boivent du café. Puisque le livre poursuit le cheminement de Diane et donne une nouvelle profondeur aux choix laissés ouverts dans le premier volume. Il peut aussi intéresser les lecteurs sensibles au récit où le quotidien professionnel, l'amitié et la vie sentimentale participent ensemble à la reconstruction personnelle. Son apport principal est de refuser les équivalences simplistes, recommencer à aimer ne signifie pas oublier. Envisager un changement ne signifie pas trahir les disparus. Être soutenu ne signifie pas abandonner son autonomie. Cette attention aux contradictions intérieures distingue le livre de romans de réparation plus linéaires, dans lesquels une rencontre résout rapidement la souffrance initiale. Agnès Martin-Lougan maintient au contraire Diane dans une zone de choix difficile, notamment autour de la maternité et de la place accordée au passé. Le café littéraire et l'amitié de Félix ajoutent une texture sociale concrète à cette trajectoire, au-delà de la seule intrigue amoureuse. La lecture offre ainsi moins une leçon qu'une exploration accessible des compromis émotionnels nécessaires après une perte. Sa force réside dans cette articulation entre continuité du deuil, retour au quotidien et ouverture prudente vers un avenir différent. Si vous souhaitez soutenir Agnès Martin-Lougan, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.